Eh, monsieur, une cigarette, une cibiche, ça n'engage à rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ce serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Pour avoir, t'en devines bien la cause. Ce que je te demande, une clope, un mégot. Ah non, pas d'anglaise, ni de bout d'oreille. C'est le tabac là, c'est du chiquet. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est bon, c'est acre comme du bois. Ça vous saoule. C'est fort et ça vous laisse un goût presque louche. De sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Tu fumes pas, ben t'en as de la chance. C'est que la vie pour toi, c'est du velours. Le tabac, c'est le baume de la souffrance. Quand on fume, le fardeau est moins lourd. Y'a l'alcool, on parle pas de cette bavarde qui vous met la tête à l'envers. La rouquine qui était une pocharde a vendu son âme à des blaires. C'est ma morphine, c'est ma coco, quoi. C'est mon vice à moi, le perlot. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est bon, c'est acre comme du bois. Ça vous saoule. C'est fort et ça vous laisse un goût presque louche. De sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Monsieur le docteur, c'est grave ma blessure. Ah oui, je comprends, y'a plus d'espoir. Le coupable, j'en sais rien, je vous le jure. C'est la vie, le métier, le trottoir. Les coupables, au fait, je vais vous le dire. C'est les hommes avec leur amour. C'est le cœur qui se laisse séduire. La misère qui dure nuit et jour. Ah, puis je m'en fous de mère, donnez-moi. Avant de mourir. Une dernière fois. Du gris que dans mes pauvres doigts. Je le roule. C'est fort, c'est bon. Ça monte en moi. Ça me saoule.
Agnès Bill, dans son album Tout Fout le Camp, où elle fait un certain nombre de reprises des chansons réalistes à sa façon. Là, bien sûr, c'était du gris. Mais pourquoi cette chanson pour amorcer la 324e édition des Petits Tas dans le Moule sur Radio Canu, la plus belle des radios? Parce que, selon le calendrier du Père Ubu, concocté par Alfred Jarry, nous sommes la Saint-Tabac. Oui, patron des licences. Napoléon III autorise la culture du tabac en Provence à l'automne 1852. Vous savez qu'il avait fait son coup d'État le 2 décembre 1851 pour se faire empereur, s'auto-proclamer empereur, comme on dit aujourd'hui. Et alors après, il a entrepris la tournée de toutes les provinces françaises en leur accordant à chacune des licences particulières sur des choses qui n'étaient pas autorisées jusqu'à présent. Tout ça pour, forcément, se mettre dans la poche un peu tous les citoyens de son empire. Et donc, il utilise, pour la Provence, enfin, à l'automne 1852, il autorise la culture du tabac. C'était une première en France. Les agriculteurs de là-bas se sont réjouis, l'accueillirent effectivement avec magnificence. Et donc, ils ont carrément conçu devant la statue du roi René. Donc vous savez que pour le calendrier apostolique romain, nous sommes la sainte René, et voici l'humour d'Alfred Jarry. Eh bien, ils ont construit donc un grand arc de triomphe qui représentait un plan de tabac monumental sous lequel l'empereur et sa cour passèrent en grande pompe le 19 octobre 1852. Voilà. C'est pourquoi que nous allons essayer de passer cette émission une petite heure avec vous pour, comment dire, à travers les volutes de nos habituelles rubriques, nous passerons en revue un certain nombre de forces qui font actuellement, comme par le passé, perdre toute licence. Ils sont très malins, là, les gouvernants, hein, accorder des licences à ceux qui les intéressent, quand ils ont notamment le pouvoir financier. Enfin, passons, puisque nous sommes en 1852. Mais là, nous allons, pour la rubrique Alpha, nous transporter toujours au 19e siècle, mais un petit peu plus tard. La déconvenue de l'anarchiste. Chautard, l'anarchiste nantais, si vous le regardez en ce moment au fond des yeux, au fond des arcades plutôt, vous y lirez le désespoir. Il a sorti la vieille de la rue Fourcroix par sa fenêtre et l'a traînée jusqu'au quai de la fosse. Quel besoin de faire craquer les os de cette vieille berloque qui n'a jamais été la proie des regards lubriques. Elle n'est pas sous ses traits anguleux. Elle n'est pas, et ça c'est le comble, avec ses seins jetés par terre. Cette vieille n'est pas, ni ses reins forcenés. Elle n'est pas la vieille, évidemment, sans lui rappeler sa propre mère. Oh, mauvais passage. Je m'exprime mal. Je n'arrive pas à faire passer la situation à travers deux personnages perdus sur le quai de la fosse. Je n'y suis pas. Veuillez m'excuser. Je vais essayer de me reprendre. Nous ne sommes qu'en début d'émission. Je ne me suis pas échauffé. Et ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Va, vieille. Retourne à ton fourbi. Dans quelques heures, le visage de Jules Chautard sera terni et effacé. Le mascaron ne conserve en mémoire que ses agents de lassitude. L'iode du vent seul le burine. Les millions de lessives à l'eau de la Loire, les millions d'œufs cuits dans la Loire, eau brouillée trop longtemps gardée sous le lit, ça suffit à effacer toute forme nette, travailler à arrondir les cristaux qui viennent d'autres rives. Les objets, les gens, les chutes finissent toujours dans un baquet où s'unifie l'infinitésimale poussière de taille de la vieille froissée, dont les mains labourées prouvent au monde qu'il est inutile aux autres d'exister. 5 jours après l'attentat contre le président Carnot à Lyon, les anarchistes continuent à se cacher, bien que quelques-uns commencent à se rassurer, voyant qu'il n'y a eu encore ni arrestation, ni perquisition en masse. La plupart des compagnons disent que si l'assassin du président eût été connu d'eux et qu'il leur eût fait part de son projet, ils l'en auraient détourné parce que le résultat a été d'abord le renvoi des ouvriers italiens obligés de quitter la France, puis la haine de la propagande contre les autorités. Les compagnons estiment en outre que l'assassin ne peut faire par son procès une propagande égale à la haine qu'il a fait naître. Ce crime, enfin, va attirer des condamnations plus sévères contre les anarchistes qui passeront en jugement. Et alors, Chautard, à Nantes, il est tombé sur le quai, dru, mu par quelque aspiration verticale. Il a lâché la vieille aussi brusquement qu'il l'avait saisie. Et dès que ses pinces ont renoncé à leur prise, le crabe Chautard a fait un petit pas de côté. Il se demandait maintenant ce qui s'offrait à lui. À lui seul. Je reprends. Décidément, je n'arrive pas à m'exprimer correctement aujourd'hui. Quand, d'abord, il est redevenu convaincu, comme il n'y a pas si longtemps, parce qu'il avait cru à quelque chose pour l'espace de sa vie, quand il a aspiré ce vide en même temps qu'il lâchait la peau et les os dont il avait voulu se couvrir, comme si finalement il avait cherché à s'en combler de ce vide qu'il sentait bien respirer fort à ses côtés, quand il a cessé de se croire plein de gravats creux, comment dire mieux, je n'y arrive pas. Son vieux cœur aurait fini par craquer de toute façon, tout l'indique. À retaper, chotard. Quand ça s'est passé si vite qu'évidemment la vieille n'est sortie que pour tirer son fourneau au bord du fleuve, oubliant simplement son bâton de vieille, prendre l'air du port, seule avec son fourneau. Elle alors, puisqu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle s'en est retournée, lentement. Un premier pied, puis un autre, et ainsi de suite, pied à pied, traînant derrière elle son fourneau, intime, intime petite vieille, qu'on ne voit pas, tellement elle nous habite, intime, et toute rabougrie au pays des araignées, ses sœurs. Ce coup-là, le principe d'autorité est touché, mais pas dans sa matrice. Le sentiment patriotique est puissant en notre pays. Les armées de la République, sous la direction de Lazare Carnot, le grand-père du sacrifié, les armées de la République ont soudé les citoyens dans un sentiment de supériorité nationale, dans la fierté du seul contre tous. Et l'anarchiste, avec sa patrie du monde entier, son refus du titre de citoyen, a beau jeu de chercher à ouvrir toutes les frontières qui blessent à mort la fraternité. Le fait est là. Regardez ces Italiens chassés par milliers, ces libertaires aujourd'hui exclus de toute responsabilité dans les bourses du travail de la France entière. C'est un échec, sans rémission possible. La patrie n'existe que pour ceux qui ont des intérêts et tout de la fortune, dit Caserio dans sa plaidoirie. Non, la patrie, c'est d'abord une affaire de sang, monsieur le préfet, et la générosité en espèces s'entend au sens que lui a donné le vieux Pline, attribut de la race noble et supérieure. Voilà ce qui est inscrit jusque dans les fibres de notre bonne classe ouvrière. Voilà ce qui justifie le libéralisme modéré et intransigeant sur lequel s'aligne Casimir Perrier, successeur de Carnot, sur lequel s'aligne Félix Faure, puis monsieur Émile Loubet. Voilà ce qui nous rassure pour l'avenir de la France. Les oiseaux défendent leur nid parce qu'ils s'y trouvent bien, dit encore Caserio. Là s'arrête l'intelligence de ce paria. Il n'aura pas le loisir de méditer sur les coups de bec de ses frères du pavé vis-à-vis de la population italienne, par exemple.
J'accuse la misère. Et je traîne à la barre cet aveugle, ce sourd, ce bandit, ce barbare, le passé. Je dénonce aux royautés, chaos, tes vieilles lois, d'où sont sortis les vieux fléaux. Elles pèsent sur nous, dans le siècle où nous sommes, du poids de l'ignorance effrayante des hommes. Elle nous change tous en frères ennemis. Elles seules ont fait le mal. Elles ont mis la torche inepte aux mains des souffrances implacables. J'accuse, ô nos aïeux, car l'heure est solennelle, votre société, la vieille criminelle, la scélérate a fait tout ce que nous voyons. C'est elle qui, sur l'âme, et sur tous les rayons, et sur tous les essors, posa ses mains immondes. Elle qui, l'un par l'autre, éclipsa les deux mondes, la raison par la foi par la raison. elle qui mit au haut des lois une prison, elle qui, fourvoyant les hommes, même en France, créa la cécité qu'on appelle ignorance, leur ferma la science, et marâtre pour eux, laissant noirs les esprits, fit les cœurs ténébreux. Je l'accuse, et je veux qu'elle soit condamnée. Elle vient d'enfanter cette effroyable année. Elle égare parfois jusqu'à d'affreux souhaits, toi-même, ô peuple immense et puissant qui la hait. Le bœuf meurtri se dresse et frappe à coups de corne. Elle a créé la foule inconsciente et morne. Elle a tout opprimé, tout froissé, tout plié, tout blessé. La rancune est un glaive oublié, mais qu'on retrouve. Hélas, la haine est une dette. Cette société que les vieux temps ont faite, depuis 2000 ans, règne, usurpe notre bien, notre droit, et prend tout même à ceux qui n'ont rien. Elle fait dévorer le peuple aux parasites. La guerre et l'échafaud, voilà ses réussites. Elle n'a rien laissé de l'instinct animal aux sauvages embusqués dans la forêt du mal. Elle répond de tout ce que peut faire l'homme. La bête fauve sort de la bête de somme. L'esclave, sous le fouet, se révolte. Et battu, fuit dans l'ombre et demande à l'enfer, « Me veux-tu ?» Étonnez-vous après, ô semeur de tempête, que ce souffre-douleur soit votre trouble fête, et qu'il vous donne tort à tous, sur tous les points, qu'il soit hagard, fatal, sombre, et que ces deux points reviennent, tout à coup, sur notre tragédie, secouer l'un le meurtre et l'autre l'incendie. J'accuse le passé, vous dis-je. Il a tout fait. Quand il abrutissait le peuple, il triomphait. Il a Dieu pour fantôme et Satan pour ministre. Hélas, il a créé l'indigence sinistre qui saigne et qui se venge au hasard, sans savoir, et qui devient la haine et dans le désespoir. Qui que vous soyez, vous que je sers et que j'aime, souffrant que dans le mal, la main du crime sème, et que j'ai toujours plein, averti, défendu. Ô vous les accablés, ô vous les éperdus, nos frères, repoussez celui qui vous exploite. Suivez l'esprit qui plane, et non l'esprit qui boite. Montez vers l'avenir, montez vers les clartés. Mais ne vous laissez plus entraîner. Résistez. Résistez, quel que soit le nom dont il se nomme, à quiconque vous donne un conseil contre l'homme. Résistez aux douleurs. Résistez à la faim. Si vous saviez combien on fut près de la faim.
C'était Gérard Dournel qui nous interprétait ce texte méconnu de Victor Hugo, son J'accuse, bien antérieur à celui de Zola, puisque nous sommes en 1872. Ce J'accuse fait partie de l'année terrible où, en vers, s'il vous plaît, Hugo nous relate les événements de 1871, la Commune et ses suites. Ceci pour nous amener à la rubrique Bêta. Comme chaque semaine hebdomadaire, chères auditrices et chers auditeurs, vous pouvez dès à présent décoller votre pavillon auditif de votre poste à Galène et vous orienter, si vous en avez une, vers la fenêtre de chez vous, donnant sur ce ciel, nous dirons, mitigé, tabagiste, tabageux, de notre ville de Lyon. Et il y a un peu de chance de voir s'approcher la navette spéciale de Miss Cosmos.
Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette. Je suis venue aujourd'hui toute seule de ma constellation des pirates et pour vous relater les aventures d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Monsanto. Monsanto sur le chemin de la victoire. La 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 la, nous vaincrons, la 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 la. Monsanto, c'est pas trop tôt, Monsanto, c'est pas... Il y a des licences qu'on accorde et des licences qu'on accorde pas sur le météorite. Tout dépend des marges de manœuvre dont vous disposez pour plaider votre cause. Certaines firmes sont tellement intelligentes qu'elles décrédibilisent les scientifiques. À ce que j'ai constaté de ma constellation des pénates depuis la dernière semaine hebdomadaire au moyen de mon télescope. Et prenons, au hasard, le glyphosate dont vous parlez tant. Sur l'échantillon Bruxelles, vous croisez par hasard un sbire de Monsanto.
Oh ! Que faites-vous là, brave homme ?
Je cherche un journaliste pour le dégriser des propos des toxicologues. Car ces gens, intoxiqués de clichés, nous traînent en justice à longueur d'année. Le glyphosate, cancérogène probable. On rigole. Tout ça, ce sont des manigances de lobby. Ils s'en viennent à Bruxelles rapporter leurs inepties. Alors on les suit, tout naturellement, pour faire apparaître la vérité. Qui est-ce qu'on écoute le plus dans cette affaire ? Des militants, des rats, de la mauvaise herbe, en somme. Des mercenaires appointés pour nous couler. De quoi ? C'est dans ces secteurs de l'écologie qu'on trouve la mafia la plus dangereuse pour l'économie mondiale.
Monsieur Monsanto, vous ne supportez pas la critique des experts ?
Experts, mes fesses ! Il n'y a aucun argument pertinent dans cette paperasse. 300 pages de rebut. Sans aucune objectivité scientifique.
Au fait, vous êtes journaliste ou j'use ma salive pour des prunes contaminées.
Bon, de toute façon, nous sommes en train de gagner le combat, car nous menaçons la communauté européenne d'une procédure infamante.
Notre herbicide va être réautorisé, je vous le garantis. D'ailleurs, tout le monde utilise du Roundup. Pas vous ?
Dans la constellation des pénates, vous savez,
il n'y a même plus de suspense. On ne demande que 10 ans. Même le ministre écologiste gaulois est favorable pour 3 ans. Autant dire que c'est gagné.
Des écologistes noyautant les gouvernements, on aura tout vu.
Qu'ils s'abstiennent sur les sujets qu'ils ne connaissent pas. L'Europe est un objet bizarre entre nous.
Mais il y a des citoyens qui...
De quoi ? Vous allez me parler des pétitions sur papier toilette ?
Vous ne voulez réduire à aucun prix l'usage des pesticides, monsieur Monsanto ? Vous ignorez leur caractère mutagène ? Pourtant, notre télescope de la...
C'est faux ! L'autorité européenne des aliments le dément. Déjà, nos analyses avaient démonté toutes ces absurdités débitées sur notre dos. Les vrais experts, vous les trouvez où ? Chez nous. Bref, rendez-vous la semaine prochaine, la vérité va éclater et les braves jardiniers et agriculteurs ne culpabiliseront plus, je vous le promets.
Vous avez beaucoup d'auditeurs.
Vous êtes sur Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Encore un guet-apens ? Vous allez déformer mes propos comme les autres journaleux pisse-froid, tous vendus. Tous vendus. Tous, mais tous vendus.
Ben vous voyez, une licence, ça se défend hein, virilement hein, par chez vous. Tabac ou perturbateur endocrinien. même combat, et vous n'êtes pas au bout de vos peines, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette. Pas besoin de licence dans la constellation des pénates. Tout est analysé collectivement et sans parti pris. Hein? Ah bah tiens, j'y retourne. J'ai une réunion de conseil. Ah oui. Oh, alors il faut déjà que je remette en marche cette navette spéciale qui me fait livrer quelques petits caprices. Alors, comment ça marche déjà? À la semaine prochaine hebdomadaire, hein, et si tout se passe bien.
Oui, si on veut, si on veut, ça paye, mais ça paye quoi, ça paye...
Ça paye la semence, quoi.
Je suis qu'un pauvre paysan. Je fais un peu la vigne. On m'a dit, j'ai rien comme vigne, j'ai peut-être allé 98 hectares de vigne. C'est du direct, j'ai du muscat, mais la vigne, ça paye pas. La vigne, ça paye pas. Ça a eu payé. Mais ça paye plus. Si, si on veut, ça paye. C'est-à-dire, ça paye. Si on veut, ça paye. Mais quoi, ça paye quoi, ça paye. Ça paye le sulfate, quoi. L'autre jour, j'étais à la foire, je voulais acheter un autre tracteur, je voulais l'acheter, j'ai dit, j'en ai comme ça pour moi, quand un peu les avait des autres, moi j'en avais des autres, moi j'en avais des autres, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, il y avait ces nouveaux tracteurs, c'est des moissonneuses vieuses canadiennes, c'est nouveau, fallait y penser, c'est des moissonneuses vieuses qui charrient par derrière, comme ça on perd pas de temps, il fallait y penser. Alors, vous avez votre moissonneuse qui moissonne, les balles de paille tombent d'un côté, ça ramasse le grain, par derrière, vous avez une charrue de 17 socles, et par derrière, ça ressème le blé que vous avez récolté. C'est pas tellement au point, quoi. Alors j'ai demandé le prix. Moi que je voulais pas lâcher, j'ai
90 millions anciens francs français. Vous voulez où j'aille les chercher, moi, 90 millions? Je suis comme fort paysan. Alors j'en ai pris un petit à côté, là, à 33 millions. Je fais un peu l'orne. Je fais un peu la ouane. Je suis obligé de faire la ouane parce que je fais le cheval.
Moi, que j'ai rien, quand je fais des chevaux, j'ai rien, j'ai bien dans les 110, 115 chevaux, quoi. C'est suivant les années, si les juments, elles ont bien vêlé, alors à ce moment-là.
Mais le cheval, ça paye pas. Ça a eu payé. Je préfère faire le cheval que de faire la vache. J'aime pas faire la vache. Marqué de père en fils, on fait la vache. Alors, les 25 hectares de prairie, alors on continue à avoir les vaches.
Ben, j'ai rien, j'ai peut-être dans les 75, 80 bêtes, t'as compte pas plus.
Je suis qu'un pauvre paysan. Et la vache, ça paye pas. Ça a eu payé. On vient un jour à la maison, on est à la ferme, on ira à la crasse là, tu vois. On mangera un peu de pain de seigle le matin, parce que je fais mon seigle, moi. Pour faire mon pain, moi, j'aime pas bien manger ce pain blanc, là, dès les boulangers, ils mettent des produits, c'est blanc, j'aime pas bien. Bon, moi, j'ai rien, que j'ai peut-être 5 ou 6 hectares de seigle, pas plus. Le matin, je coupe ma tranche de pain de seigle, là, avec moi, du jambon et tout, du beurre, je fais moi. Moi, qui le seigle, ça paye pas. Le seigle, ça paye pas. Ça a jamais payé. Ma femme fait la chèvre, elle fait le cochon, elle fait la volaille. Je vous vois venir, vous qui êtes de la ville. Vous êtes en train de vous dire, mais alors vous les paysans, vous payez pas votre pain, vous payez pas votre vin, vous payez pas votre lait, vous payez pas votre beurre, vous payez pas votre fromage, vous payez pas vos volailles, vous payez pas votre viande, vous payez... Faut payer le sel. Cinq ans qu'on est marié avec ma femme. Je me souviens le matin des noces, elle était dans la cour de la ferme. Je lui dis, Berthe, viens ici. J'ai rien à t'offrir pour ton mariage, j'ai une idée. Oui, j'ai une idée, je vais te donner tout le fumier des champs. Elle m'a dit, c'est pas vrai, si, à partir d'aujourd'hui, tout le crottin, ça sera pour toi. On est que des pauvres paysans. Elle s'est mise à genoux sur le perron de la ferme. Et quand je l'ai eu relevée, j'ai senti quelques gouttes de larmes qui tombaient sur ma main calleuse. Je ne suis pas moqué de toi. Je te jure qu'à partir d'aujourd'hui, tout le crottin, ça sent pour toi. Le lendemain matin, le soleil n'était pas levé. Avec la fourche, hop, le crottin s'était pourri. On est que des pauvres paysans. Elle en fait des tas qu'elle expédie à Paris chez les champignonniers. Parce que le champignon de Paris ne pousse exclusivement que sur le crottin de cheval de province. Alors toutes les semaines, on avance son wagon de crottin. 5 ans qu'on est mariés, 5 ans. L'autre jour, elle me dit, Lucien, si tu m'amenais à Paris, oh, ben, j'ai dit, si tu veux, montons dans la bétalière. Et on a été place Vendôme. Comment on appelle ces bijoutiers? Faut pas dire bijoutier, c'est que ça les vexe. Hein. Faut dire orfèvre, c'est qu'à Paris, c'est déjà un boulard. On a été fait un nommé Van Cleef et Boucheron. Enfin, non, comme ça, quoi. Puis avec l'argent du fumier, elle s'est acheté un diamant. Soi-disant qu'il est pur. Moi, il me plaît pas. Il est trop gros. C'est ce que je lui ai dit. Qu'est-ce que tu vas avoir pour 60 millions? On est que des forquilles. Si vous passez par ces montagnes cette année, venez à la maison, je vous ferai goûter mon dernier vin blanc. On cassera quelques mois ensemble. Vous n'allez pas vous tromper. Vous n'avez qu'à demander à un nommé Crésus.
Nous encroûte, on nous déroute, prévention coûte que coûte, on risque la pire des maladies, dès que l'on croque dans un casse-croûte, il faut se méfier de tout, les microbes sont partout, dans l'air, sur terre, dans l'eau, et même les hôpitaux. C'est la loi du raisonnable, de la mer d'huile il faut pas une vague, aucun excès n'est toléré, c'est une question de santé, il faut pas se coucher. coucher tard, ça fatigue, c'est dangereux. Il faut pas boire de café noir trop souvent, ça rend nerveux.
À force de
tout prévenir,
prévenir,
on en oublie les plaisirs. On vit plus pour être heureux, mais pour mourir très 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 vieux. On se prive,
on s'interdit,
les petits bonheurs de la vie. Pour être toujours en pleine forme, mais dans la monotonie. Il faut pas manger de gras, ça donne du cholestérol. L'alcool, n'en parlons pas, ça donne la cirrhose du foie. Il faut éviter la viande, elle est devenue trop folle. Les gâteaux, crème, chocolat sont à proscrire de nos repas. Il faut consommer des légumes et des fruits frais de saison. Au minimum 10 par jour, pour notre corps c'est très très bon. Il faut boire l'eau en bouteille pour ces oligo-éléments. Et du bifi, du sacti dans les yaourts parce que c'est important.
À force de
tout prévenir, on en oublie les plaisirs. On vit plus pour être heureux, mais pour mourir très 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 vieux. On se prive,
on s'interdit
les petits bonheurs de la vie. Pour être toujours en pleine forme, mais dans la monotonie. Il faut une assurance vie pour être heureux quand on sera mort. Il faut être une fourmi, faire plein d'économies. Il faut pas être cigale, il ne faut pas trop chanter. Il faut épargner pour sa retraite dès qu'on commence à travailler. Il faut pas sortir le soir, les nuits sont pleines de voyous. Il faut avoir des alarmes, les voleurs sont près de chez nous. Il faut pas prendre d'autostoppeur, ce sont tous des serial killers. Faut pas parler aux inconnus qui nous abordent le long des rues. À force de
tout prévenir,
on en oublie les plaisirs. On vit plus pour être heureux, mais pour mourir très 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 vieux. On se prive,
on s'interdit
les petits bonheurs de la vie. Pour être toujours en pleine forme, mais dans la monotonie. Fais pas ci et fais pas ça, pas de ceci, pas de cela. On finit par se demander ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. On vit dans la frustration, c'est comme une religion, sans Dieu et sans confession, mais avec ses interdictions. La prévention excessive se nourrit de nos phobies. Elle les transforme à sa guise, les utilise pour son profit. Elle mène à toutes les dérives jusqu'aux guerres de prévention. Elle nous prend qu'on se le dise, vraiment tout ce pour nous. À force de
prévenir,
on en oublie les plaisirs. On vit plus pour être heureux, mais pour mourir très 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 vieux. On se prive,
on s'interdit
les petits bonheurs de la vie. Pour être toujours en pleine forme.
Vous avez entendu successivement Fernand Reynaud nous interpréter « Ça a eu payé !» Et là, à l'instant, le groupe National 7, « Les excès de la prévention ». Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus... belle et intoxique des radios. Et nous vous rappelons que nous fêtons aujourd'hui, dans l'émission Les Petits Tas dans le Mou, la Saint-Abat. Et patron des licences. Donc aujourd'hui, jusqu'à ce soir, nous vous engageons encore. Ce soir minuit, bien sûr, permettez-vous. Point. Et ceci nous amène à la rubrique... Gamma. Veine. Revendication. Deux personnes sont l'une en face de l'autre, mais leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Il s'agit de fixer un salaire, un taux minimum. Il s'agit de passer une convention. Tout travailleur désire gagner le plus qu'il est possible selon son statut, dans la mesure de la conjoncture. Le maître, l'employeur, désire lâcher le moins qu'il peut dans la mesure du rapport de force. On organise des concertations. Le premier n'a qu'un objectif en tête, augmenter son salaire. Le deuxième ne démord pas du fait qu'il faut baisser les salaires dans leur globalité. Auditeurs qui sortaient de la manifestation à l'appel de la CGT, il n'est pas difficile de prévoir lequel des deux partis, dans les circonstances ordinaires, aura l'avantage dans le débat, lequel imposera forcément à l'autre toutes ses conditions sans réserve. Lequel ? On me dira que le maître est en moindre nombre que ceux qui l'emploient. C'est la raison pour laquelle les maîtres n'ont pas trop de difficultés à se concerter entre eux. Et puis, il y a la loi. La loi autorise le maître à prendre toutes les mesures qui s'imposent en concertation avec ses homologues. Et liée à la conjoncture, la loi n'interdit pas aux maîtres de se rassembler dans leur belle demeure, pendant que la foule défile en masse, comme tout à l'heure, dans l'espoir d'établir un rapport de force équitable. Je ne connais pas d'acte du Parlement qui aurait interdit les ligues qui tendent de tout leur pouvoir financier à abaisser le coût du travail. Je connais beaucoup de mesures officielles qui tendent à faire baisser le coût du travail. On en arrive à la lutte. On constate que les maîtres sont capables de tenir longtemps sur leur position. Pour ce qui concerne les petites boîtes, un seul meneur peut faire vivre sur un temps donné son entreprise. Un ouvrier sans travail ne subsiste qu'à peine une semaine. Allez, mettons un mois. Une année entière, et c'est la vraie galère. Le petit maître s'épuise à faire marcher tout seul son affaire. Il cherche à recruter, mais il n'a pas changé quant aux conditions. Il peut tenir encore, tandis que le chômeur est aux abois. Je suis surpris qu'on n'évoque jamais la coalition des maîtres, des entrepreneurs. On parle des mauvaises mœurs des ouvriers, de leur tendance à descendre dans la rue et à semer le bordel pour leur pur plaisir. Est-ce que les médias ne connaissent pas comment marche le monde ? Ou bien ils ignorent la matière dont ils parlent. Les dominants se retrouvent toujours dans des ligues tacites, mais constantes et uniformes, cela pour lutter contre la hausse des salaires et même des taxes qu'on leur réclame. Celui parmi eux qui oserait élever le niveau de vie de ses employés serait une sorte de traître, un faux frère, sur lequel s'abattraient des reproches sans merci. « Tu as quitté la ligue ! Tu vas le payer cher !» Non, nous n'entendons jamais parler de ligue au sujet du patronat. La raison en est que leurs mœurs sont habituelles et continuelles depuis Napoléon. Le comportement des patrons est considéré comme une chose naturelle. Par conséquent, personne n'y fait attention, à part les syndicats. Quelquefois pourtant, les maîtres font entre eux des complots particuliers pour faire baisser au-dessous du taux habituel les salaires du travail. Ces complots sont toujours conduits dans le plus grand silence et dans le plus grand secret jusqu'au moment où ils passent à l'acte. Les ouvriers sont pris par surprise et contraints de céder aux nouvelles mesures. La résistance est difficile, quoiqu'ils sentent bien le coup en traître et qu'ils le sentent durement. Mais personne n'en avait parlé en amont. L'ouvrier peine à s'opposer à ces coalitions de patrons. Il faut organiser une ligue défensive. Le mieux est de prévoir à l'avance les coups bas pour prévenir cet état de choses. Et toujours exiger plus et mieux, car la bourse, elle, va toujours mieux et ne fait que valoriser ses placements. On s'aperçoit que les produits de première nécessité ne font qu'augmenter dans les magasins. On s'aperçoit que les grands capitaux se portent bien. Aussitôt que la rue s'agite, la rumeur l'accompagne.
Une décision doit se prendre à toute vitesse. Aussi, les clameurs sont d'une grande intensité. Il n'y a pas de temps à perdre. Ainsi adviennent des actes de violence, des excès qui seront du ressort de la justice. La justice ignore les situations désespérées, ce n'est pas son sujet. Ce manifestant a commis un acte extravagant, pour ne pas dire plus. Mais le désespoir n'est pas un argument pour se laisser aller à la fureur, aux derniers excès, comme disent les gens de prétoire. Allais-je me laisser mourir de faim avec toute ma famille ? Non, puisqu'on ne nous écoute pas, je m'en suis pris directement à nos maîtres.
Ne pouviez-vous pas leur demander gentiment d'améliorer votre train de vie ?
Et voilà. Nous sommes à présent au tribunal et les maîtres s'empressent de venir comparaître. Que fait la police ? Ces gens-là me mettent en danger en s'en prenant à mes biens. J'espère que vous allez appliquer strictement les lois de ce pays. Si vous ne vous montrez pas sévère sur cette affaire-là, vous autoriserez tous ces fainéants à amplifier leurs mouvements. Et alors, je ne vous parle pas de l'ambiance dans nos boîtes qui font marcher le pays, je vous le rappelle. L'ouvrier révolté perdra toujours son procès. Il a été violent, intempérant. La magistrature le remettra en place en suivant les consignes des seigneurs du marché. L'ouvrier cédera à tous les coups, car l'essentiel pour lui est d'accéder à un minimum de subsistance. Certains iront en prison ou écoperont d'amendes qu'ils ne sont pas en situation de régler. Et l'émeute sera dissoute, tête basse ou bien tête décapitée. Les maîtres ont l'avantage, car ils choisissent nos dirigeants et savent nous diriger pour que nous les élisions à leur place. Que leur font les sempiternelles querelles avec les représentants du personnel. Jusqu'où descendra le pouvoir d'achat ? Le pouvoir de renouvellement de la force de travail, jusqu'à ce que nous n'ayons plus en face de nous que des machines pour faire valoir nos désuètes revendications.
Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat ? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Le patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire aux débiles que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein ? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Légal plus dur qui reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia, Ceta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
François Béranger, Blues, parle du syndicat. Ceci pour nous amener à notre ultime rubrique, la rubrique Ba Yaka, celle que les sceptiques appellent
À quoi bon ?
Vous avez reçu de la visite hier soir, mais vous ne vous souvenez plus de qui, parce que vous avez forcé sur les alcools forts et le tabac. En tout cas, c'était un importun, d'après ce qu'il vous reste en mémoire, si peu de choses. Et vous êtes décidé aujourd'hui à vous en aller souscrire à la Ligue du Repos. Vous avez déjà vu à la télé des manifestants gueulant dans des porte-voix ouatés, boule-quies dans les oreilles. Maintenant, vous connaissez la raison de telle pratique. Tout à coup, le prénom de l'emmerdeur vous revient en tête. Jean. Jean, il vous a expliqué hier au soir que le problème du bon sens populaire consistait dans le fait qu'il avait un sens, mais pas de direction. Jean disait hier au soir qu'il préférait les neuroleptiques, qui étaient moins néfastes pour la santé que le tabac, d'autres trucs dans le genre. Mais vous allez prendre d'assaut la barricade de neuroleptique de Jean. Mais vous n'allez rien faire de ce que vous avez prévu ce matin avec cette gueule de bois. Tout à coup, vous replongez dans le sommeil et Jean s'extrait des ruines comme l'autre quand il descendait du Sinaï. Il montre du doigt les décombres. Les survivants sont en train d'absorber les restes de la barricade en neuroleptique, ils absorbent carrément les tubes avec leur contenu. Voici Jean qui se jette à vos pieds et gémit. Je le jure, camarade, j'avais cru que le monde allait mieux parce qu'il me laissait tranquille, alors que naguère j'étais un bouc émissaire. Je me sentais rejeté et moqué, et tout à coup ça a cessé. Ma vie, à cause de cela, n'était qu'un sourire gercé. Je laissais tomber le doute par crainte de ce monde qui m'épargnait. Jusque-là, le doute m'avait épargné de ces coups mortels. Voici quel fut mon raisonnement. L'indifférence te donne le droit de te compromettre avec les théories. Je me suis senti porteur d'idées comme un présentoir de musée, si vous voulez. Et je ne comprends pas pourquoi vous avez levé une armée contre moi, la Ligue du Repos. Auriez-vous peur de la mémoire ? Nourrissez-vous le projet de détruire les musées vivants ? La paix mondiale doit donc se payer de l'oubli du temps où l'on affirmait, de façon bien naïve, telle chose face à telle autre. M'accorderez-vous la faveur d'un pourquoi ? Hein ? Vous êtes en train de surplomber Jean. Vous avez le pied sur sa... Non, sur son torse. Vous attendez la fin de sa supplique en vous tapant un tube de l'exomil. Enfin, comme il ne voit plus rien à dire dans sa position, là, par terre, vous tentez une phrase historique du bout des lèvres, et pourtant vos lèvres adhèrent comme deux limaces en levrette. Tu es sorti des ruines en imitant une imagerie du pinéal. Ce sont ceux qui pètent plus haut que leur cul qui posent les bombes dans les poubelles et les landaus. Tu dois te rétracter, Jean. Un Jean. Et à votre grande surprise, alors que vous alliez poser le pied sur sa nuque, Jean se rétracte du mieux qu'il peut au milieu des gélules. Vous vous sentez impuissant.
Jean défend sa cause avec une ardeur rare. Il pleure à présent, il implore à genoux, il répète à tous les vents. « Je n'ai pas cru, je n'ai pas cru !» Pète perdu, il est cuit. Vous vous en rendez compte à l'issue de la bataille. Il y a tout autour de vous des restes d'assaillants groggy qui assaillent vainement Jean. Voici Jean assis sur la barricade d'antidépresseurs. Les survivants le pressent pour qu'il avoue quelque chose, le fin mot de l'affaire. Il n'arrive qu'à répéter que, dès le début de sa carrière, il s'est mis à douter. D'abord de façon clandestine, dans son lit ou dans les water. Mais bientôt le doute s'est mis à enfler. Il a pris toute la place. Comme Jean n'était pas partageur, il a décidé de douter de façon radicale, jusqu'au moment où il apposait les tampons sur les enveloppes du marché européen. Vous vous réveillez. Je le tiens. Je le tiens enfin. Cet insaisissable petit porteur. J'ai identifié le petit porteur de doute. Son doute, je le comprends maintenant, est une arme bactériologique. Un doute qui fait des petits à longueur de journée. Comment construire sur cette base? Tout se délite dans la complaisance. Dans votre rêve, il y avait tout un tas de vainqueurs qui se traînaient parmi les débris à la recherche de l'introuvable vache folle. Ils étaient vainqueurs, mais il sautait aux yeux que leurs esprits avaient durci et que leurs cerveaux, coraux sans oxygène, se refusaient au passage du sang, en eux-mêmes ou au dehors. Soudain, Jean est devant vous. Vous tombez sur la descente de lit, jonché de flacons. Mais Jean n'est pas là en vrai. Jean n'est plus nulle part, même pas dans son bureau. Il a volé le tampon avec le sigle européen, mais... Qui aurait-il ? Jean est en train de grignoter un bout de stylo quelque part. Vous l'entendez distinctement.
Je n'affirmerai pas que je doute encore, mais du moins, je doute d'avoir quelque chose à affirmer.
Jean, vous le connaissez ? C'est votre humble petit bonhomme de collègue à Bruxelles. Vous savez, cet homme quelconque qui ne fera jamais de mal à une mouche.
Merde, il est 13h57. Ben, je vais être bougre. Moi, je suis sacrément bougrement en retard à la manif. Hein, putain. Une clope, c'est la Saint-Abat. Et j'y cours, mais j'ai peur qu'il n'y ait plus personne. Place Bellecour. On va voir. Hein. On sait jamais. Philippe Catherine qui reprenait le cimetière des éléphants. Et oui, le cimetière des éléphants, alors il y en a dans chaque ville, hein, voilà, c'est un peu ce qu'on peut appeler le jardin des souvenirs, évidemment. Et donc, à Lyon, par exemple, vous avez le cimetière des éléphants, et il faut aller y voir. C'est à Loyasse, là-haut, hein, bon, voilà, vous, et vous verrez, c'est très touchant. Et même, vous pouvez ramener de la corne sous vos pieds en ayant monté par la montée de la Sarah. Et voilà. Bon, ça n'empêche que jusqu'à ce soir, on vous engage jusqu'à minuit à permettez-vous, permettez-moi, permettez-le, permettez-lui, permettez-vous, permettez, monsieur, etc. J'ai une, avant de conclure cette émission, une petite annonce à vous faire qui concerne la soirée là de ce jeudi. Vous connaissez peut-être une revue qui tous les mois sort une bande dessinée sur l'histoire de Lyon. Ça s'appelle Les Rues de Lyon. Ce soir, il y a la sortie du dernier numéro qui s'intitule Sieur Girard de Zargues, le Lyonnois, et qui est une biographie d'un géomètre lyonnais. Visionnaire, rien compris. Et si vous êtes intéressé non seulement par la géographie, mais par la perspective et l'urbanisme, ça risque d'être assez passionnant. Voilà. Et donc, c'est la sortie de ce numéro qui coûte d'ailleurs 3 euros, comme tous les numéros de ces bandes dessinées illustrant les rues de Lyon. Et c'est ce soir donc à 19h à la Maison des mathématiques et de l'informatique, 1 place de l'école dans le 7e arrondissement. C'est à côté du métro de Bourg, si vous voyez. Ou alors arrêt du tram ENS Lyon, le tram T1. Au programme à 19h, une animation mathématique et perspectiviste proposée par Plaisir Mat, l'association des matheux, ouvert au grand public toute l'année. Alors ça ne dure qu'un quart d'heure, hein, à 19h15. Il y aura une petite présentation par Étienne Guis du personnage de ce Girard de Zargues, lyonnois. Et à 20h, un pot et une séance de dédicace si vous voulez acheter la bande dessinée. Tout cela est bien sûr gratuit. Donc je vous rappelle, à partir de ce soir, 19h, Maison des mathématiques et de l'informatique, 1 place de l'école, 7e arrondissement de Lyon. Quant à moi, je vais vous laisser avec la bande passante, dite bande continue de Radio Canu, la plus belle des radios. Ce jusqu'à 17h où vous allez retrouver l'émission Intrinsèque, les musicalités gaulo-gauloises cul par-dessus tête. À 18h, ce sera les paysans et paysannes dans la lutte des classes. Et il sera entre autres question ce soir de l'abattage à la ferme qui pose quelques soucis et quelques procès à ceux qui le pratiquent. C'est-à-dire en ne passant pas par l'abattoir. Voilà, et à 19h, comme chaque jour de la semaine hebdomadaire, le journal de Radio Canu. Pour ce qui nous concerne, si tout se passe bien, on se retrouve les petits tas dans le mou la prochaine semaine hebdomadaire, où nous serons, selon le calendrier du Père Ubu concocté par Alfred Jarry, la sainte Varice. Mais Varice, c'est la patronne des trésoriers. Vous comprendrez pourquoi en nous écoutant. On vous souhaite une bonne écoute. Et c'est parti avec la bande continue de Radio Canu. Surtout, permettez-vous, permettez-vous, permettez-vous. Le doute.